autant.
Et à vie autour de vous.
Autant le dire, 90 minutes pour l'actu près de chez vous.
En direct à 11h30 du lundi au vendredi.
Sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes des radios Air d'Otan Gaillac et Air d'Otan, autant le dire. Ça revient ce mardi 7 décembre depuis nos studios vauréens ce mardi avec à la technique aujourd'hui, Shérif. Bonjour Shérif.
Et bonjour Mathieu.
Tu as une chaîne deux fois d'affilée.
Eh ouais.
Bon, super.
Super, cool.
Alors, aujourd'hui dans nos studios, nous avons également Luce. Bonjour Luce. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es là depuis lundi. Que fais-tu à la radio ?
Je suis en stage de 3e et aujourd'hui je vais présenter les échos d'Otan.
Tu viens de quel collège ?
Les Closades à Lavaur.
Ça se passe bien ?
Oui, ça se passe bien.
Bon, très bien. On te retrouve tout à l'heure du coup pour les échos que tu as préparés toute cette matinée depuis hier. Et donc j'espère que ça se passera bien pour cette première au micro. C'est la première fois, c'est ça ?
C'est ça.
Bon. Je te souhaite bon courage en tout cas. Et donc, Luce nous présentera les échos d'Otan dans cette première demi-heure d'Otan le dire. Vous retrouverez également la présentation de l'artiste qui nous accompagnera pendant 90 minutes. Il y aura également une petite page sport avec les résultats du week-end. Il y aura la météo un petit peu avant midi si vous nous écoutez en direct. Ou 18h ou 7h du matin, ce sont les différentes heures de réécoute du journal d'information, une demi-heure d'information locale. Et en troisième partie d'émission aujourd'hui, ça sera le magazine d'Otan le dire. Et à l'occasion de la sortie d'un livre pour enfants intitulé « Camille va voir papa », la rédaction a souhaité inviter l'association L'École des parents et des éducateurs afin d'en savoir plus sur les missions de coéducation, d'accompagnement à la parentalité avec un focus notamment sur le RUEPI, le relais enfants-parents incarcérés. Donc c'est un magazine de la rédaction proposé par Claire Cachecouche-Soucy. Mais nous commençons tout de suite cette première demi-heure avec les échos d'acquis. Ce sont les informations locales, les rendez-vous culturels, l'info au plus près de vous, en bref et en hoc.
Écho d'acquis, info locale, agenda, en occitan, sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac.
Adisias et Baki, les échos d'acquis. Kumensan à la bao per bus tourna dire que ya lus mercats des 17 et 25 et le 1er de zambier sont avançats à ce dibendres 24 et 31 de décembre. Donc, lus mercats des 17 seront donc lus dibendres le 24 et le 31 à la bao, es de nuta et de mancapas. Gaillac, il y a le mercat de Nadal organisé par la ville qui s'est ouvert le 1er de décembre et qui se continue jusqu'au 12 décembre. Tout une fin d'expansion, un grand mercat de Nadal avec des sabots, des créatus, dès que se fait plager, est sur la place de la Libération de Gaillac, jusqu'au 12 décembre, ville-gaillac.fr pour toutes les intéressées, c'est que nous rendez-vous sur place. Coufouleu, la compagnie du Morse, compagnie de Rabastens Coufouleu, a l'ouplagé de vous annoncer une programmation pour rendez-vous les rencarts du Morse. Une dimensade, 12 spectacles, il y aura l'éblouissante vie du petit poussé, comme vous ne l'avez jamais vu, le conte de Charles Perrault, rébiste et courrécite d'une bièse contemporanée. À cause des découvertes le 10 de décembre à la halle de Rabastens 13 Tours del Ser, des découvertes très 5 ans à coût de 45 minutes. L'autocréation en la compagnie du Morse est du ballet en Mathilde Henry et Émilie Rigaud, un spectacle de mariottes visual et musical qui dure 40 minutes, des découvertes pariées en famille. serà aquest cop dimensi 12 de desembre a la sala Henri de Guerre David de Cufuleu, 3-4 hores. L'espectacle és a 5 hores, mas hi haurà de què mansa i beure sur place 3-4 hores. Tot això és prepausat per la companyia du Morse. Podes reservar un trapamai d'entre seniors sur su site internet www.ciedumorse.com ou per mail contact@ciedumorse.com. Salbagnac, la manivelle, la boutique collective d'artisanat de Salbagnac organise son mercat de Nadal des créateurs et créatrices à questé dimanche le 12 de décembre de 9h à 1h toute la tournade. Il y aura des que vous va plager. Pour des tournes attrapes à la intéressante sur la patine Facebook La Manivelle, il y a tabé le mail lamanivelle@outlook.com. Del costat de CUC, la CCLPA vos convida divendres 10 de desembre a la Comune, a la Salle de la Festa, per l'hommage à Georges Brassens, 3-4 hores, une mostre sur l'univers et la carrière del cantaire de Francesc. Il y aura un apéritif concert et des caisses regaudi à l'entour de Georges Brassens toute la serrade. Le rendez-vous est à CUC divendres 10 de desembre. Am la Comune, à la Salle de la Festa, 3-4 hores est l'hommage à Georges Brassens. Et nous tasque à Frégeville, le 10 de décembre, il y aura Pascal Waringo à la Salle Fabre, de 8 ou de miettes à 10 ou de miettes del CIR, pour une conférence sur le nombre d'or, le nombre d'or, définition, utilisation. Ça que vous intéresse est le 10 de décembre à Frézeville, à 8 ou de miettes del CIR, l'entrée est déjà gratis. Et cric et crac, les échos d'Aki et Jacabat, bonne semaine à toutes et allez ou léo!
Échos d'Aki, info locale, agenda, en occitan, sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac.
Air d'Otan, la vie autour de vous. Air d'Otan vous accompagne dans le Tarn depuis près de 40 ans.
Dans une vingtaine de minutes, vous retrouverez l'édition du journal du mardi 7 décembre proposée dans Autant le dire. Ça sera une demi-heure d'information locale avec au sommaire de celle-ci. Il y aura ce mardi à 16h sur nos ondes. Nous vous proposons une émission exceptionnelle de paroles de résidents. L'émission enregistrée en partenariat avec les Pâtes du Vorée. Clémentine et Rémi se sont rendus vendredi après-midi dans l'établissement pour une émission spéciale Noël. Nous vous en proposons auront un avant-goût. Emmanuel Macron n'a pas encore déclaré son intention ou non de se représenter pour un deuxième mandat de président de la République, mais localement, les élus le soutenant se préparent. Dans le Vorée, il existe depuis quelques jours un crème pour comité pour la réélection d'Emmanuel Macron. Dans nos studios, nous recevrons Emmanuel Joulier, il est maire de la Bastide Saint-Georges, conseiller départemental et vice-président de la communauté de communes Tarnagout. Le comité Palestine 81 organise ce jeudi soir à la salle Arcé de la scène nationale d'Albi une soirée spéciale consacrée à la Palestine avec la projection de 2 documentaires. C'est à partir de 18h15 et nous terminerons cette édition avec la présentation de l'association Action Femmes Grand Sud. Celle-ci vise à accompagner les femmes de plus de 45 ans en reconversion professionnelle. Nous retrouverons au téléphone pour nous la présenter François Déby. Le tout avec l'actualité en bref. C'est à midi, 18h ou 7h du matin sur Air d'Otan Gaillac et Air d'Otan dans Autant le dire. Nous continuons tout de suite avec une petite page sport. Et nous commençons tout de suite avec le football et la Ligue 2 et la nouvelle occasion de prendre le large en tête de la Ligue 2 pour le Toulouse FC. Caramba, c'est encore raté. Les Toulousains se sont inclinés pour la première fois de la saison à l'extérieur. C'est 2-1 sur la pelouse de Niort. Prochaine rencontre lundi prochain avec la réception de Rodez qui est 7e de Ligue 2 après sa victoire de Rodez face à Nîmes 1-0 le week-end dernier. ce week-end, il y a eu des matchs dans le football amateur. En Régional 1, la Poule C, Albi Marsac a fait match nul, 2-0 face au Rodéo. Et Groyer, par contre, le FC Groyer coule à Honnay-le-Château, 6-2. Groyer est 10e de la Poule C de Régional 1, Albi Marsac est 12e. La Régionale 2 maintenant et nouveau match reporté pour Saint-Sulpice dans la Poule B. Également match reporté, ça fait 2 semaines de suite, pour Saint-Juéry. En Régionale 3 maintenant, la Poule F, Castres et Trieux-Gaillac, 8-0. Match reporté pour l'AS Girosens. Dans la poule G, les copains d'abord perdent 2-0 à Fenouillé. Cambounet fait match nul 0-0 face à l'Union. Et dans la poule H, Albi, l'US Albi n'a pas joué, Mazamé n'a pas joué. Et Lavore s'impose à Luc Laprimob, 6-0. Nous changeons de sport pour du running avec l'UAG Running qui organise à Gaillac la 6e édition de la course en duo. Ça sera ce samedi 11 décembre à partir de 17h30. Le départ et l'arrivée se déroulent place du Griffoul à Gaillac. Au niveau matériel obligatoire, il vous faudra une lampe frontale ainsi qu'un gobelet. Pour les inscriptions, il faut vous rendre sur le site internet Chronostart pour la 6e édition de la course en duo de Gaillac. C'est ce samedi 11 décembre à 17h30. Alors on va faire un petit point rugby maintenant avec Lavore qui a été une nouvelle fois battue à domicile par Serré. C'est la Fédérale 1, la Poule 3 sur le score de 14-19. Les Vauréens sont désormais 11e à 6 points du 10e Valence d'Agen et 8 du 9e Mazamé. Mazamé qui a gagné à domicile face à Grouillet dans le derby tarnais sur le score de 17-10. Des Grouillétois qui gardent quand même leur 3e place. Nîmes, leader, s'est imposé face à Castelsarrasin, 17-10. Pamiers est second après sa victoire à Saint-Sulpice-sur-Lèze, 21-6. Prochaine rencontre le week-end qui vient, avec notamment un Nîmes-Groyer. Mazamé reçoit Serré, match de la peur aux Closades avec Lavore avant-dernier qui reçoit le dernier de cette poule 3 de Fédéral 1, c'est Castanet. Et nous terminons cette petite page sport avec la Fédérale 2, la Poule 5, Gaillac qui chute face au leader Agde, 25-16. Le match de Saint-Sulpice à Castelnaudary a été reporté. Au classement, Agde mène devant Gruissant, Millau et Argelès. Les Gaillacois sont 5e. Saint-Sulpice est 10e devant Cahors et Nègrepelisse qui ferment la marche de cette Poule 5 de Fédérale 2. Vous êtes bien sûr Air d'Autant Gaillac et Air d'Autant, on l'écoute d'autant le dire. Nous allons faire une première pause musicale dans cette émission avec aujourd'hui le premier album d'un groupe britannique qui s'appelle Fur. Le groupe est originaire de Brighton et propose 11 titres dans cet album intitulé When You Walk Away, des titres à dominante pop rock britannique. On s'écoute un premier extrait qui s'appelle Holding Up the Sun. le groupe Fur, dans Autant le dire, avec le titre Holding Up the Sun, tiré de leur premier album When You Walk Away, qui est sorti tout dernièrement. Nous continuons Autant le dire avec les Échos d'Autant présentés par Luce.
À l'Avoir, des coupures de courant sont prévues le mercredi 8 décembre de 9h à 11h à Encastané, route de la gare, chemin du Bosc, au lieu-dit Borde Blanque, impasse du Til, route de Castané, ainsi que de 11h à 12h30 le même jour, chemin du Grand Chêne, au lieu-dit Lénoz et impasse du Til. La sophrologue Aurore Schlag propose ce mercredi 8 décembre deux activités de découverte de la sophrologie de 15h à 16h pour les 6-9 ans et de 16 à 17h pour les plus de 10 ans. Rendez-vous au centre Odélis, les places sont limitées donc il faut réserver. Pour plus d'informations, consultez le site www.centre-odélis.fr ou appelez le 06 35 42 38 82. À Gaillac, le mercredi 8 décembre à 18h30, à la Maison des artistes Antonin Artaud, 2 impasse de Toulouse-Lautrec, on accueillera des artistes en résidence de la compagnie La Part de l'Invisible, qui invite à découvrir dans les plis de l'ours leur spectacle en chantier. Les artistes viennent travailler sur leur nouveau spectacle et c'est l'occasion pour eux de présenter leurs essais, d'échanger avec le public et de lui faire voir comment se compose une pièce. On suit, durant une heure, une histoire racontée au cours des lettres de Gustave Flaubert à sa sœur Caroline. C'est à partir de 12 ans, gratuit mais avec une jauge limitée, donc la réservation est conseillée. À Groyer, la municipalité, en lien avec les services préfectoraux, a décidé le report à une date ultérieure du repas traditionnel des travailleurs retraités, prévu le mercredi 8 décembre au Forum. Elle souligne que l'ensemble des festivités de fin d'année seront soumises à l'application d'un protocole très strict, mais évolutif selon la situation sanitaire et l'adoption de nouvelles mesures. À Groyer, toujours au centre social, les ateliers de causerie nutritionnelle, décrypter et comprendre les étiquettes, donc Nutri-Score, ingrédients, DLC, etc., seront organisés ce mercredi 8 décembre de 9h30 à 10h30. C'est gratuit, mais sur inscription. À Pampelonne, organisation d'une balade champêtre par l'association Ségalien pour découvrir la chapelle romane de Las Planques et sa vue imprenable sur la vallée du Vior. Cette église du 11e et 12e siècle domine la rivière. Une surprise créative vous est réservée par une habitante de Tanus et la matinée se terminera par un repas. Rendez-vous le mercredi 8 décembre à 10h30 au parking dit Las Planques. C'est une sortie gratuite et ouverte à tout le monde, mais sur inscription auprès de Ségalien, téléphone 05 63 56 55 88 ou mail accueil@cs-segalatarnay.org ou sur le site www.cs-segalatarnay.org. Le transport via une navette est possible, mais il est sur demande. Les ateliers à Castres vous invitent à un apéro-concert classique, les dimanches musicaux hors les murs. Rendez-vous le vendredi 10 décembre à 19h avec le trio Dolce, donc flûte, violon, violoncelle, 30 minutes avec Haendel, Corelli, Piazzolla. Et donc l'accueil se fait dès 18h30. L'entrée est libre avec passe sanitaire et limitée à 80 personnes. Possibilité de manger sur place ensuite avec planche apéritive et burger. Cet événement est organisé en partenariat avec l'association Forum Castres. On ne présente plus la scène ouverte des ateliers, donc rendez-vous ce jeudi 9 décembre pour la dernière de l'année. La prochaine aura lieu en février. À À Damiat, le Radis Bleu vous propose des ateliers de jeux d'échecs pour découvrir ou redécouvrir ce jeu aux multiples facettes. C'est ouvert à tous, aux débutants comme aux confirmés. C'est ce mercredi 8 décembre et le samedi 11 décembre, mercredi 15 décembre, samedi 18 décembre, mercredi 22 décembre et jeudi 23 décembre. Le prix est 5€ et les inscriptions se font au 09 80 56 47 35.
Merci beaucoup, Luce, pour ces échos d'OTAN.
De rien.
Avant de retrouver la météo, une petite pause musicale. L'album en découverte aujourd'hui est le premier du groupe Fur, groupe de pop-rock britannique. L'album s'appelle When You Walk Away. On s'écoute un deuxième extrait, c'est No Good For You. C'était No Good For You de Fur. C'était un deuxième extrait de leur album When You Walk Away qui est sorti il y a quelques jours seulement. 11h57 si vous nous écoutez en direct aujourd'hui sur Air d'Otan Gaillac et Air d'Otan. Le moment est venu de retrouver Sylvain Caer et la météo. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mathieu, bonjour Chérif, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour les prévisions météo pour cette journée du 7 décembre.
C'est un temps bien perturbé qui s'annonce pour ces prochains jours. Donc là, on a bénéficié d'une accalmie en ce début de semaine, que ce soit pour la journée d'hier ou aujourd'hui, mardi. On a eu juste un tout petit passage pluvieux la nuit dernière qui nous a donné quelques millimètres. Il faut savoir, au niveau de la pluviométrie, d'ailleurs, ici, la station Tarn Météo, qui est basée à Gaillac, on a atteint cette nuit, avec ces quelques millimètres, la barre des 730 mm depuis le 1er janvier. Et 730 mm, c'est tout simplement la normale annuelle, donc la normale annuelle de pluviométrie, a été atteinte ici à Gaillac, et c'est généralement le cas un peu partout. Donc désormais, tout ce qui va tomber au cours de ce mois de décembre sera excédentaire. Et il va en tomber de la pluie, puisqu'une nouvelle perturbation s'approche de l'Atlantique par les côtes atlantiques. Cette pluie va arriver en cours de soirée, donc après l'accalmie de cet après-midi. On aura eu des températures dans les normales de saison cet après-midi, aux alentours de 8 à 9 degrés. 3 à 4 degrés sur les reliefs enneigés des monts de la Cône. Donc cette perturbation va nous apporter de la pluie, beaucoup de pluie, la nuit prochaine, et de la neige de nouveau sur les reliefs, puisque les températures vont baisser sur les reliefs, donc de la neige à partir de 800-900 mètres la nuit prochaine et demain matin. On pourrait avoir 10 à 15 cm supplémentaires, en plus de tout ce qui est tombé au cours de ces derniers jours. Et au-dessous, donc pour la plaine, ça sera de la pluie tout au long de cette journée de mercredi, avec donc des cumuls qui seront parfois importants. On attend entre 20 et 30 mm, parfois même plus, sur la plaine, des températures demain, mercredi, qui seront un peu fraîches, aux alentours de 6-7 degrés en plaine, et puis donc proche du 0 degré sur les reliefs, où il neigera. C'est un temps à averses qui va ensuite se perdurer pour la journée de jeudi. Il y aura moins de pluie pour la journée de jeudi, des averses, de la fraîcheur, des averses de neige sur le relief, et de nouveau une belle perturbation pour la fin de la semaine, pour vendredi, et pour samedi, avec de nouveau de la pluie et de la neige en montagne. Voilà le programme des réjouissances. Je reviendrai au cours de ces prochains jours sur la chronologie de la fin de la semaine. En tout cas, profitez de ces quelques heures d'accalmie pour ce mardi, puisque du mauvais temps reviendra donc pour la journée de demain, avec pluie et neige sur le relief. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous donne rendez-vous demain.
Merci beaucoup Sylvain, très bon après-midi à toi également. On rappelle qu'on peut retrouver toutes ces informations sur ta page Facebook Tarn Météo. Et à demain pour de nouvelles informations météorologiques. Tout de suite, les informations.
Autant le dire.
Le journal de la rédaction.
Sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac.
Ce mardi à 16h, nous vous proposons sur Air d'Otan Gaillac et Air d'Otan une émission exceptionnelle de paroles de résidents, l'émission enregistrée en partenariat avec l'EHPAD du Vorey. Clémentine et Rémi se sont rendus vendredi dernier dans l'établissement pour enregistrer une émission spéciale Noël. Nous vous en donnerons un avant-goût. Emmanuel Macron n'a pas encore déclaré son intention ou non de se représenter pour un deuxième mandat de président de la République, mais localement, les élus le soutenant se préparent. Dans le Vorey, il existe depuis quelques jours un CREM pour comité pour la réélection d'Emmanuel Macron. Dans nos studios aujourd'hui, Emmanuel Joulier, maire de Labastide-Saint-Georges, conseiller départemental et vice-président de la communauté de communes Tarnagoute, et Laurence Sénégals, conseillère municipale de Saint-Sulpice, ainsi que conseillère communautaire. Le comité Palestine 81 organise ce jeudi soir à la salle Arcé de la scène nationale d'Albi une soirée spéciale consacrée à la Palestine avec la projection de deux documentaires. C'est à partir de 18h15 et nous terminerons cette édition avec la présentation de l'association Action Femmes Grand Sud. Celle-ci vise à accompagner les femmes de plus de 45 ans en reconversion professionnelle. Nous retrouverons au téléphone François Déby. C'est la deuxième saison radiophonique pour Paroles de Résidents, l'émission enregistrée depuis l'EHPAD du Vorey. Et pour cette fin d'année, Clémentine et Rémi se sont rendus dans l'établissement vorréen, animer et enregistrer une émission spéciale qui sera diffusée ce mardi à 16h. Pour vous en donner un avant-goût, en voici un petit extrait.
Bon, alors je remonte, j'ai 85 ans. Bon, je remonte quand j'avais une dizaine d'années. C'était la guerre contre les Boches. Pour Noël, on marquait le coup, mais il n'y avait pas l'abondance de guirlandes et de jouets dans les magasins. Ce qui fait que plusieurs mois à l'avance, quand on achetait du chocolat, on gardait précieusement le papier brillant pour habiller des étoiles qu'on découpait après dans du papier ou dans du carton. Voilà. Et c'était le Noël des pauvres. Et les guirlandes aussi, on les faisait avec de ce papier qu'on coupait et puis on étirait délicatement. Bien. Du patois maintenant ?
Comme vous voulez,
Bon, alors, j'ai un petit chant de Noël, en patois du Tarn à peu près. Je ne sais pas si ça va être bien. C'est le mari de ma grand-mère qui me l'a appris à l'occasion de Noël à Rabastin, où on était descendu à pied 3 km pour aller voir la messe de minuit. Et on était revenu 3 km pour entrer à la cheminée. Et on avait fait griller de la saucisse, et on avait trouvé ça que c'était luxueux. Bon. Alors, voici la petite chanson de mon grand-père. Anenaus y las daubados que s'envienen de Suna sur des trompettos daurados disent qu'un dauphin sera l'uno fa tarara tararero li tampon la deri tampon nubel bengut pichu pupun tarara tarara tarara, tarara, li tampum la deri tampum, nubel bengut, pichu pupum. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris.
Pas trop.
Ça parle de nous. Ouais.
Alors, moi, je la connais. Il me semble qu'elle s'appelle Nadal Tindaire.
Peut-être.
Beléo. Hein. Mais une cansoupla traditionnelle.
Il l'avait appris jeune, hein, et quand il me l'a appris, il commençait à avoir la grosse soixantaine et il s'en était souvenu. Il était né à Montvalen dans le Tarn et c'est une chanson de son enfance, hein, et elle est peut-être encore sous une autre forme avec quelqu'un. J'ai un autre petit souvenir qui est rigolo, mais qui n'est pas bien. Un de mes petits-fils, qui a maintenant 30 ans, quand il était à l'école primaire, avait choisi l'occitan comme langue. Et un jour, il rentre à la maison et il me dit « Mamie, est-ce que tu connais des jurons en occitan ?» Je lui dis « Oui ». Et il me dit « Tu peux m'en dire ?» Je lui dis oui. Il me dit vas-y. Quaranto milo di où ? Le lendemain, il est revenu, ou le surlendemain, à l'école, et il a dit maîtresse, maman mie, elle connaît un juron en patois. Et la maîtresse lui a dit tu me le dis. Je vous dis pas les faits. Quaranto milo di où ? Voilà, c'est fini.
Rendez-vous donc ce mardi à 16h sur Air d'Otan, Gaillac et Air d'Otan pour cette émission spéciale Nadal de Paroles de Résidents. Une émission à retrouver bien sûr sur notre site internet le www.airdotan.fr. Les 5 parlementaires du département signent un courrier commun adressé au ministre de l'Économie et des Finances. Dans leur lettre, ils interpellent Bruno Le Maire au sujet de l'entreprise Scopelec, dont le siège social est à Sorèze. Partenaire historique du groupe Orange, Skopelec a perdu une partie d'un appel d'offres menaçant les 1910 personnes, dont 500 en Occitanie. Sénateurs et députés souhaitent, je cite, que le groupe Orange puisse renouveler son partenariat avec la Skopelec dans l'intérêt des emplois menacés par ses méthodes à la hussarde. Au cours des précédentes éditions du journal, nous vous avons déjà parlé de la situation des éleveurs de plein air obligés d'enfermer leurs volailles. Face à ces contraintes réglementaires et pour lutter contre l'industrialisation de l'agriculture, la Confédération paysanne et d'autres collectifs organisent une manifestation régionale ce jeudi 9 décembre à Toulouse à partir de 10h devant la gare Matabiau. Et enfin, Pierre Rabhi est décédé samedi 4 décembre, précurseur de l'écologie, de la sobriété heureuse et du mouvement d'Écolibri. Pierre Rabhi tenait également des positions conservatrices sur des questions sociétales, l'homosexualité ou encore les femmes. Dans nos studios à présent, Laurence Sénégas et Emmanuel Joulier, bonjour.
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 Alors, vous faites partie du comité pour la réélection d'Emmanuel Macron du pays de Cocagne. Alors, vous êtes tous les deux élus au sein de cette communauté de communes et élus du Voré. Est-ce que vous pouvez nous présenter les raisons qui vous poussent à créer ce comité ?
Oui, bonjour. Tout d'abord, oui, les raisons, c'est autour d'une dizaine d'élus locaux du territoire. C'est l'idée de faire un bilan des années qui viennent de se dérouler, de la situation dans laquelle notre pays se trouve, et de souhaiter de manière commune un second mandat d'Emmanuel Macron. Donc sa réélection, aujourd'hui il n'est pas candidat, mais en tout cas nous sommes un certain nombre d'élus locaux à souhaiter sa réélection pour diverses raisons. Hein. Tout d'abord parce que moi en tant que maire élu local depuis 2008, c'est le premier mandat, je dirais, national, le premier gouvernement qui a pris autant en compte la parole des élus locaux. Alors certes, au début, certains ont taxé Emmanuel Macron d'être un peu hors sol, mais c'est tout de même 5 ans au bout de son quinquennat. C'est un des seuls présidents qui a reçu maintes fois les élus, les maires à l'Élysée, qui a organisé un grand débat dans lequel il leur a donné la parole, qui a replacé clairement la position des intercommunalités par rapport aux communes, en réexpliquant bien que les communautés de communes étaient des outils au service des communes et pas des super-communes. Donc voilà, moi, à titre personnel, en tant qu'élu local, et on est un certain nombre à se dire que c'est le président qui a été et qui a fait le plus, parce que dire c'est bien joli, mais qui a fait le plus au final pour nos territoires.
Laurence Sénégas, vous, votre position ?
Ma position, en tant que femme, je vais bien sûr mettre en avant le fait que le gouvernement a mis en avant vraiment la cause et la notion d'égalité femmes-hommes, aussi bien en politique qu'au niveau professionnel. C'est, on le sait, c'était la première fois qu'il y avait autant de femmes députées en 2017. Disons les choses, 48% de mémoire sur le groupe majoritaire, ce qui amène à une moyenne de 39% sur l'ensemble de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on continue. Il y a eu beaucoup d'avancées sociales, à mon sens, qui ont été engagées, qu'il faut vraiment continuer. Et je dirais que la crise sanitaire que nous traversons, que nous continuons à traverser, si vous voulez, et la gestion de la crise en est un parfait exemple de la réussite de la politique qui a été menée par notre gouvernement. Pour moi, il faut que l'action continue.
Parmi les signataires de nombreux élus pour ce comité pour la réélection d'Emmanuel Macron au sein du pays de Cocagne, est-ce que c'est-à-dire que c'est un soutien vraiment d'élus ou y a-t-il des citoyens qui sont membres de ce comité ? Comment vous organisez-vous ?
Alors aujourd'hui, l'idée des comités locaux, c'est de montrer que des élus locaux, dans un premier temps, sont en attente et souhaitent la réélection d'Emmanuel Macron, comme l'a dit Laurent Sénégas, pour aussi parfaire et poursuivre les réformes engagées, dont certaines ont été mise un petit peu entre parenthèses en raison de la crise historique que l'on traverse. Donc, comme l'a dit Laurence, on a quand même un gouvernement qui tient la barre dans une forte tempête et qui, malgré cela, a réussi à mettre en place des réformes qui, notamment sur le plan sociétales, sur le plan économique, démontrent aujourd'hui toutes leurs efficacités. Donc aujourd'hui, c'est un regroupement d'élus locaux, un appel aussi à ce que d'autres élus locaux nous rejoignent. Alors encore une fois, hein, c'est transpartisan. Hein, l'idée, c'est pas de créer un clivage où on peut être adhérent au collectif. Hein, c'est un collectif, donc c'est pas une forme associative. On peut être adhérent sans appartenir à La République En Marche, il n'y a pas de souci. C'est juste aujourd'hui des élus qui se rendent compte et qui souhaitent effectivement qu'on puisse continuer sur 5 ans avec la même dynamique au niveau national. Et surtout, l'idée des comités locaux, c'est aussi de mettre en avant les effets positifs de la politique du gouvernement sur nos territoires. Voilà, sur nos territoires, il faut quand même se rappeler qu'on sort de mandat précédent avec une loi NOTRe qui a complètement déstructuré nos territoires. Et on arrive aujourd'hui sur un président qui a pris conscience de cela et qui veut justement, lui, redonner la parole au territoire.
Au niveau local, il y a quand même des critiques, notamment au niveau de la fiscalité, l'absence pour les municipalités et autres intercommunalités, maintenant d'avoir une fiscalité propre avec la suppression de la taxe d'habitation parmi les autres élus, c'est une question qui...
Alors, moi, en tant que vice-président aux finances de la communauté de communes, et je connais bien ce genre de sujet, en fait, c'est au jour d'aujourd'hui, la taxe d'habitation a été supprimée, mais pour ceux qui la payaient, pour les contribuables. Elle est compensée à l'euro près par le gouvernement, auprès des collectivités. Il n'y a pas ou très peu, à la marge sans doute, en tout cas je ne pense pas sur notre territoire, de communes qui ont perdu de l'argent avec la suppression de la TH. On a quand même rendu à peu près 800 à 900 euros de pouvoir d'achat à toutes les familles. Sur nos territoires, on est dans un territoire assez dynamique, l'Ouest Tarnais, où on a quand même des valeurs locatives un peu élevées, on est plutôt près des 1000 euros par foyer qui ont été rendus en pouvoir d'achat. Et les communes n'ont rien perdu. Je suis maire, Laurent Sénégaz, ville de Saint-Sulpice. Je peux vous dire qu'on a beaucoup plus perdu sous le mandat précédent avec la participation au remboursement de la dette qui a coupé les DGF de plusieurs milliards d'euros en France que sur la suppression de la TH qui est comptablement pour nos collectivités neutre.
Donc vous êtes élu avec notamment le maire de Saint-Sulpice qui signataire également la maire de Saint-Agnan, Brigitte Parère, au sein de ce comité pour la réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'également il y a des comités pour la réélection des députés qui sont déjà sortants? Est-ce que vous avez des liens avec Jean Terlier qui a émis le souhait, pas forcément de se représenter, mais en tout cas de repartir? Est-ce que...
Je crois que au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas faire passer une élection avant l'autre. Toutefois, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis membre aussi du comité politique de la REM et je serai le soutien de tous les députés sortants qui seront réinvestis par le mouvement, parce que c'est eux aussi qui contribuent à apporter, à valider les choix du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Hein. C'est-à-dire qu'on a un président dynamique, volontaire, mais il a besoin de députés pour, entre guillemets, transcrire dans la loi ses souhaits et ses volontés, sa dynamique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas là, mais bien entendu, en tout cas personnellement, je serai au soutien de celles et ceux qui souhaiteront poursuivre l'aventure sur notre territoire et pour porter les valeurs du Tarn à Paris.
Laurent Sénégas, Emmanuel Joulier, pour conclure, si des personnes ou des élus ont été convaincus par votre passage, comment doivent-ils faire pour vous contacter ?
Alors, ils peuvent nous contacter directement. On est assez accessible. Sinon, il y a une adresse mail qui a été créée, qui est creme.de.cocagne@gmail.com. Donc, creme.de.cocagne@gmail.com. Ou bien nous contacter via... On est assez accessible, je pense, s'ils souhaitent rejoindre ce collectif.
Merci beaucoup d'avoir été dans nos studios aujourd'hui.
Merci.
Merci à vous.
Ce jeudi, le comité Palestine 80 organise une soirée avec la projection de deux films à la salle Arce à Albi. Pour nous présenter le programme, nous retrouvons au téléphone Nelly Foissac.
Au téléphone à présent avec nous, Nelly Foissac. Nelly Foissac, bonjour.
Bonjour et merci à Radio Herboutan de m'inviter.
Avec grand plaisir, nous vous invitons aujourd'hui pour nous parler d'une soirée prévue ce 9 décembre. Cette soirée, à quoi est-elle consacrée ?
Alors, c'est une soirée cinéma, comme nous avons d'ailleurs l'habitude d'en faire depuis quelques années, parce que le comité Palestine, d'ailleurs en partenariat avec le cinéma de la scène nationale, la salle Arcé, programme donc des films pour faire connaître soit la réalité de la situation en Palestine, soit la production de cinéastes palestiniens, parce que malgré tous les problèmes qui existent là-bas, eh ben, il y a une vie artistique, culturelle et cinématographique. Voilà, donc cette année, nous avons déjà programmé au mois de juin deux films dans le cadre de la décentralisation du festival Ciné-Palestine de Toulouse-Occitanie. Et là, de notre propre initiative, le comité Palestine, je suis une des animatrices, donc a décidé, hors festival, de faire sa petite programmation personnelle avec deux films, donc le jeudi 9 décembre. Voilà.
Oui, et justement, ces films, est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous en dire un petit peu plus sur qui les a réalisés, quel est le message qu'ils transmettent?
Tout à fait. Alors, donc, le premier film qui s'appelle « Le char et l'olivier » n'est pas un film réalisé par un Palestinien, mais réalisé par un Français, Roland Murier. C'est un film qui est sorti en 2019 et que nous avions programmé l'année dernière à pareille époque, mais souvenez-vous de ce qui s'était passé à pareille époque. Les cinémas avaient fermé, donc on l'avait reporté dans le temps en début d'année 2021. Et puis, bon, de Kerolas, on n'avait pas renoncé, mais voilà, on avait sursis à cette initiative. Et puis là, comme c'est un film très intéressant, c'est le sous-titre du film, c'est « Une autre histoire de la Palestine ». Voilà, et comme le dit donc une critique de Télérama, par exemple, qui recommande ce film, dit que c'est une autre histoire débarrassée des esprits, des clichés et des préjugés, qui est très pédagogique et qui permet en quelque sorte de mieux comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce qu'on parle volontiers dans les médias du conflit israélo-palestinien, mais d'où provient ce conflit? Et il faut remonter effectivement très loin dans l'histoire, enfin mais très loin, au 19e siècle notamment, et puis après la Première Guerre et la deuxième Guerre mondiale au cours du 20e siècle. Oui. Donc c'est un film qui donne la parole aussi à des experts internationaux, historiens, des diplomates des Nations Unies, des juristes, bref, quelque chose d'extrêmement sérieux. Et voilà, vous paraît que c'est un film utile.
Donc film, c'est un film vraiment d'actualité, dans le sens de la vie en ce moment.
Voilà, de la vie en ce moment, c'est-à-dire c'est un film plutôt avec une perspective historique. Si
ah d'accord,
voulez.
Oui. Okay.
Il reprend les choses à la fin du 19e siècle. Et pour, voilà, au moment où on est, comment s'est créé l'État d'Israël, si vous voulez, voilà, on repart de là, mais pour comprendre tout cela, il faut remonter dans l'histoire à la fin du 19e siècle. Et je pense que tous les éclairages qu'ils auront apportés dans ce film permettront de mieux s'y retrouver, et de savoir que quand même, c'est l'histoire, en gros, d'une colonisation, l'histoire de ce qui s'est passé en Palestine. C'est pour ça que les Palestiniens résistent, continuent à vivre et à dire qu'ils sont chez eux et qu'ils veulent vivre dans un État indépendant et à part entière, quoi, qu'ils n'ont pas, comme à l'heure actuelle, divisé entre Gaza et la Cisjordanie occupée par une myriade de colonies israéliennes où il est impossible de circuler. Quant à Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, tout le monde le sait.
Ça, c'est le premier film, Le char et l'olivier, qui est prévu, il me semble, à 18h. Il y a un deuxième film...
Alors, à 18h15.
18h15, oui.
Il est assez long, donc voilà. Nous avons prévu... Il n'y aura pas de débat après ce premier film parce que, bon... Peut-être certains voudront se restaurer. On a prévu d'ailleurs une possibilité de réservation à la brasserie du parc au 05 63 54 12 80 pour la somme de 10 euros. Hein. Ouais. Parce qu'on aura trois quarts d'heure entre les deux films. Quoi.
C'est, d'accord, donc ça va vite.
C'est un peu serré, quoi. Hein, ouais. Voilà. Hein. Voilà, donc moi je le recommande. Tous ceux qui l'ont vu, moi j'ai vu les présentations, j'ai lu les critiques et tout ça. Et je pense que c'est un film, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe là-bas, à voir.
Et le deuxième film, alors ?
Alors, le deuxième film, alors là, ce n'est pas encore un film palestinien. Au moment de Ciné-Palestine, là, nous aurons, au mois de mars notamment, deux films qui seront des films de réalisateurs palestiniens. Mais là, c'est le film d'un réalisateur italien, Emanuele Gerosa, mais qui met en scène la réalité d'aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, on la verra dans le deuxième film, au travers de l'histoire de deux jeunes Gazaouis, dont l'un vit toujours à Gaza, et l'autre s'est exilé en Suède pour pouvoir réaliser en quelque sorte ses rêves. Ce sont deux jeunes, mais vous voulez savoir ce dont il s'agit, qui pratiquent comme sport le parcours. Hein, vous savez ce que c'est ?
Et non, je ne sais pas ce que c'est que le parcours.
Alors, c'est une espèce de course acrobatique dans des lieux très accidentés.
Ah, d'accord, oui je
et
vois.
Voilà, vous voyez, hein, ouais. Et à Gaza, avec les tas de ruines qu'il y a partout, finalement, c'est un terrain privilégié et qui est reconnu même à l'échelle internationale. Moi, j'ai appris tout ça en préparant la soirée. Voilà, et l'un d'eux a pu partir et participe à l'échelle internationale à des compétitions, et son ami est resté à Gaza, et c'est toute l'histoire de ces deux jeunes, et en même temps, on est plongé directement dans la réalité actuelle de Gaza. C'est un film qui est sorti au mois d'octobre cette année, en 2021, donc qui est très très récent, vous voyez, qui nous replonge là-dedans. Alors là, peut-être, je pense qu'on en aura un peu le temps. On organisera un petit débat qui pourra aussi déborder pour ceux qui auront vu le film précédent sur le film précédent. Voilà.
Et donc, pour participer à la projection de ces deux films, vaut-il payer, s'inscrire quelque part ?
Alors, pour le film, il s'agit de se présenter à la salle Arcé, c'est la salle de cinéma de la scène nationale. Et il y a un tarif unique à 5 euros pour tout le monde, avec un tarif étudiant à 4 euros. Hein. Ça, c'est un accord en partenariat avec la scène nationale qui nous fait des tarifs un peu particuliers. Et donc, je rappelle que, c'est comme tous les cinémas, hein, il y a un pass sanitaire obligatoire, je ne le précise pas, malheureusement. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a la possibilité donc, de réserver, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la restauration rapide, au 05 63 54 12 80, où nous nous retrouvons. Nous avons fait ça déjà au mois de juin, ça s'était très bien passé, compte tenu du peu de temps qu'il y a entre les deux films.
Merci beaucoup Nelly Foissac. Je rappelle ce jeudi 9 décembre pour la soirée de soutien à la Palestine, qui est organisée par le Comité Palestine 81. Ça commence à 18h15 avec le char et l'olivier.
Albi,
à la salle Arcé.
À la salle Arcé. Voilà, merci beaucoup. Hein, bonne journée.
L'association Action Femmes Grand Sud s'est implantée depuis quelques années dans le Tarn. Celle-ci vise à accompagner les femmes de plus de 45 ans en reconversion professionnelle. Pour nous présenter leurs actions, nous retrouvons au téléphone François Déby.
François Déby, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes bénévole auprès d'une association Action Femmes Grand Sud et nous venons vers vous aujourd'hui pour en avoir un petit peu plus d'informations sur cette association. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous la présenter ?
Oui, bien sûr. Alors Action Femmes Grand Sud est une association qui existe depuis 10 ans maintenant. Nous fêtons les 10 ans cette année, donc depuis 2011, qui a été créée historiquement à Toulouse, donc et qui aide en fait les femmes de plus de 45 ans à retrouver un projet professionnel, ou plus exactement à franchir une nouvelle étape de leur vie professionnelle. Donc l'association est présente non seulement sur Toulouse, mais également sur Albi, et puis depuis cette année également à Montpellier, donc sur toute l'Occitanie. Et nous avons accompagné depuis la création, alors j'ai le chiffre exact, 383 personnes. Voilà, avec un taux de réussite moyenne de reclassement qui avoisine les 80% en fait.
Alors pourquoi cibler les femmes de plus de 45 ans ?
Oh ben ça, il faudrait demander à la présidente qui a créé l'association, hein, Françoise Baraquin. Je pense qu'il y a une sensibilisation particulière sur cette population-là. Notamment, ce sont des femmes qui arrivent généralement à un tournant de leur vie, soit à cause d'une rupture ou d'un changement de au niveau de la recherche du sens, par exemple. Et donc, en fait, c'est un âge aussi qui peut être potentiellement critique pour retrouver du travail vis-à-vis des employeurs. Bon, dans la réalité, ça ne l'est pas, mais en tout cas, la plupart des femmes le perçoivent comme ça, comme une difficulté vis-à-vis de l'âge également. Donc, les conditions pour adhérer à l'association, c'est d'être une femme de plus de 45 ans, d'être inscrite à Pôle emploi et évidemment d'habiter en Occitanie, c'est quand même plus simple.
Comment se matérialise, se concrétise votre aide ?
Oui, alors en fait, les bénévoles qui interviennent dans l'association sont tous des professionnels, soit des RH, soit de l'accompagnement, hein, coach par exemple. On a également des art thérapeutes, des sophrologues. Et l'aide se manifeste de deux façons. Nous avons des accompagnements individuels. Donc lorsque vous arrivez dans l'association, vous avez une personne qui vous est attitrée, qui va vous accompagner individuellement sous forme de séances de coaching individuelles. Et puis vous avez des accompagnements collectifs au travers d'ateliers. Alors des ateliers soit de dynamisation pour faire le point sur le projet professionnel, soit des ateliers plus thématiques liés à la confiance en soi, vis-à-vis de son âge, la psychologie positive, oser la réussite. Voilà, donc ce genre d'ateliers qui vont généralement redonner confiance aux personnes que nous accompagnons, puisque c'est souvent la thématique un peu centrale.
Oui, c'est plus des côtés de ce que vous venez de dire, de confiance plutôt qu'un manque de, ou un défaut de compétences ou de qualifications au travail.
Oui, alors c'est effectivement souvent ça. Nous, ce que nous proposons, c'est un accompagnement global, en fait, hein, de la personne. On ne considère pas qu'on a en face de nous juste des CV à pattes, hein, si vous me passez l'expression. On a des gens dans leur entièreté, et donc notre travail va consister à les aider à valoriser leur parcours, à trouver, en fait, à retrouver le sens de ce qu'elles cherchent, et puis surtout à reprendre confiance dans leurs compétences qu'elles ont déjà, qu'elles peuvent valoriser, en fait, réellement, et donc à se redonner à un projet dans lequel elles peuvent croire. Alors, ces projets sont de plusieurs ordres, hein. Ça peut être des emplois salariés, ça peut être de la création d'entreprise, et ça peut être aussi parfois une reprise d'études ou de formation complémentaire.
Y a-t-il une durée d'accompagnement ?
Bon, alors là, c'est très variable. On a une durée moyenne, oui, hein. On a des statistiques, hein, sur le sujet. La durée moyenne de l'accompagnement, c'est 7 mois. Maintenant, ça peut aller de 1 à 2 séances individuelles jusqu'à des fois plus d'un an. Ça dépend en fait des personnes que nous accompagnons, de là où elles en sont, des difficultés qu'elles ont à gérer sur elles-mêmes ou vis-à-vis de leurs projets, parce que certains projets mettent du temps à mettre en place. Par contre, ce qu'on a comme statistique, c'est 80% en moyenne des personnes que nous accompagnons repartent avec un projet professionnel, donc soit sous forme d'emploi salarié, soit sous forme de projet personnel, donc de création d'activité, soit sous forme de formation.
Sur Albi, en ce moment, vous accompagnez de combien de personnes ?
On a une petite dizaine de personnes sur Albi, mais on recrute toujours. Hein, donc toutes les personnes qui sont intéressées pour venir nous rejoindre sont les bienvenues. Il y a toute une équipe de bénévoles à Albi, hein, qui vous attend. Qui sont des bénévoles d'ailleurs, qui sont soit coach professionnel, on a une art thérapeute, excusez-moi, et puis on a aussi des professionnels DRH.
Et pour vous contacter, comment faut-il faire ?
Alors très simple, hein, sur internet vous tapez Action Femmes Grand Sud, hein, vous allez tomber sur le site internet, donc c'est actionfemmesgrandsud.fr, femmes au pluriel, hein, Action Femmes Grand Sud tout collé, .fr. Et sinon, vous pouvez également téléphoner au 07 69 30 14 13.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour des informations mercredi à midi dans Autant le dire. Vous êtes bien sur Air d'Autant Gaillac et Air d'Autant à l'écoute d'Autant le dire, qui continue avec le magazine de la rédaction proposé par Claire Cache-Couche-Soucy. À l'occasion de la sortie d'un livre pour enfants intitulé « Camille va voir papa », Claire a souhaité inviter l'association L'École des parents et des éducateurs afin d'en savoir plus sur ses missions de coéducation, d'accompagnement à la parentalité, avec un focus sur le répit, le relais enfant-parent incarcéré. Bonne écoute.
Thank you.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine de la rédaction sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. Il va être question aujourd'hui d'enfance, de parentalité, d'éducation, d'accompagnement. Un vaste univers dont l'association L'École des parents et des éducateurs essaie de prendre soin. Il sera aussi question de la sortie d'un livre porté par cette association. À mes côtés en studio, Carole Sanchez, petit bonjour.
Bonjour Claire.
Et Olivier Tournier, bonjour.
Bonjour Claire.
Merci d'avoir honoré donc cette invitation. Alors ce nom, l'école des parents et des éducateurs, suggère votre mission et laisse entendre qu'être parent ou travailler auprès des enfants ou de jeunes, eh bien ça s'apprend. C'est pas inné tout ça, loin de là, Carole.
Merci de poser la question qui est traditionnellement posée. Alors, école des parents et des éducateurs n'est pas une école du tout, mais bien un espace d'écoute pour les familles, pour les éducateurs et pour toutes les personnes qui accompagnent les familles. Il faut entendre école des parents et des éducateurs dans le sens de faire école, c'est-à-dire que nous véhiculons des valeurs et des principes d'action qui vont être essaimés au fur et à mesure, puisque nous sommes une fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs du Tarn, représentée sur quasiment l'ensemble des départements actuellement, de France Métropole ainsi que Dom-Tom. Et nous avons la particularité de ne pas donner de conseils, mais d'accueillir les familles ainsi que les professionnels là où ils en sont de leur cheminement par rapport à la parentalité.
Et alors tout ça, vous le faites sur l'ensemble du département? Vous avez plusieurs antennes ou permanences?
Alors actuellement, nous avons effectivement un déploiement d'action sur le sud du département, à Mazamet et au Sillon. Ce sont des permanences d'écoute individuelle ou familiale qui s'adresse à des enfants, des jeunes ou des parents, ainsi que sur Roussillon en alternance. Donc ce sont deux jours par mois qui sont dédiés au sud du département et l'équivalence en temps de travail sur le nord du département dans notre siège à Albi au 18 rue des Carmélites.
Il y a des salariés dans votre association ?
Oui, et nous venons de recruter une jeune femme en alternance, une jeune femme sénégalaise qui passe un BTS en gestion de la petite et moyenne entreprise. Voilà, nous sommes ravis de l'accueillir. Donc, il s'agit de Sénabou. Ensuite, nous avons Justine et Jean qui sont médiateurs familiaux, ainsi que Amélie qui est psychologue. Et moi-même, donc, qui suis coordinatrice. Donc, nous sommes 5 salariés, mais nous avons aussi beaucoup de partenaires et de prestataires, des psychologues comme Cécile, une conseillère en images, Badra, ainsi qu'une formatrice en massage et en bien-être qui s'appelle Séverine.
Alors, en tant que parent, si on a envie de venir vers vous pour diverses raisons, comment ça se passe? Quel accueil on va trouver?
Alors, on va trouver des accueils individuels d'accompagnement qui sont donc encadrés par les personnes que je vous ai citées, des salariés, des intervenants extérieurs, puisqu'ils sont ou psychologues ou médiateurs, et qu'il est important de pouvoir assurer un cadre sécurisant aux personnes que nous accueillons. Mais nous avons la chance, et une chance immense, d'avoir une team de bénévoles, autant pour le café des parents et le café des grands-parents, qui sont vraiment des actions génériques de l'école des parents, qui sont vraiment les premiers espaces qui ont été créés collectifs depuis 2004. Donc c'est assez pérenne et qui se sont développés sur le Carmozin également. Et nous avons donc une autre équipe de bénévoles sur le RÉPI, le relais enfants parents incarcérés, dont le président parlera ultérieurement.
En deuxième partie d'émission, tout à fait. Vous avez évoqué des médiateurs familiaux. Est-ce qu'en cas de conflit, de tension, peut-être avant même le conflit, par exemple dans un couple, est-ce qu'on peut venir et se faire accompagner ou en tout cas bénéficier de ce soutien pour essayer d'avancer ?
Merci de poser la question, parce qu'effectivement, notre association, comme le dit association, c'est un regroupement de personnes qui portent des valeurs et qui portent un projet associatif, que l'on soit salarié, bénévole, administrateur. On est tous dans la même mouvance de coéducation, de collaboration. Et effectivement, dans une démarche d'accompagnement avec une éthique respectueuse de la singularité de chaque famille, puisqu'on peut parler, on ne peut pas parler de la famille, mais plutôt des familles, puisque aucune famille ne se ressemble. Donc, que vous soyez accueilli par un bénévole, un administrateur bénévole ou un salarié ou un intervenant extérieur, vous serez toujours accueilli dans la même démarche d'accueil bienveillant, où les personnes ont une écoute bienveillante, mais aussi surtout respectueuse et qui va permettre de clarifier la problématique de la famille. Donc, en ce qui concerne précisément la médiation familiale, il y a plusieurs façons, effectivement, ou plusieurs thématiques qui font qu'on a besoin de venir rencontrer un médiateur. Ce sont tous les aspects conjugaux aussi, les mésententes conjugales, les mésententes, effectivement, parentale, donc une aide à la décision à se séparer, pourquoi pas, c'est un espace où on peut venir travailler. Et ensuite, la plupart, enfin 99% de notre public, ce sont des séparations parentales. Donc soit les personnes viennent sur recommandation de la CAF, dans le cadre du parcours séparation, ou d'un travailleur social, ou d'une association qui nous connaît, ou par le bouche à oreille. Donc ça, c'est les conventionnels, c'est-à-dire c'est une façon, une démarche volontaire qui vient et qui s'inscrit à l'EPE. Et ensuite, nous avons l'injonction, ou en tout cas ou l'ordonnance même, des juges des affaires familiales qui, dès qu'il y a séparation, qu'il y a une audience pour divorce ou séparation, eh bien, la juge aux affaires familiales ou le juge, puisqu'il y a aussi un homme, nous adresse les publics pour qu'ils viennent s'informer à la médiation familiale. On va toujours essayer de rester dans la prévention des crises familiales graves et des ruptures avant d'aller sur de la judiciarisation, pardon, voilà, et d'aller au tribunal, parce que le tribunal, voilà, c'est toujours quelque chose qui peut faire peur.
Est-ce que ces moments-là sont payants pour les personnes concernées ?
Alors, tout ce qui est de l'ordre de l'information est gratuit en médiation familiale. Ce qui va être payant, ce sont les séances. C'est-à-dire que quand les personnes concernées, ça peut être un ado avec son parent, un ado qui est dont les parents sont séparés depuis plusieurs années et qui vit très mal d'aller chez l'un ou chez l'autre, où il y a des tensions et qui amènent effectivement des problèmes de communication dans la famille. À minima des problèmes de communication, ça peut aller plus loin. Et bien là, on va aussi inviter l'ado à pouvoir venir. Donc lui, il ne va rien payer puisqu'il n'est pas solvable. Sinon, les familles paient, et c'est chacun qui paie en fonction de son revenu déclaré. Voilà. Et nous sommes obligés d'appliquer un barème de la Caisse nationale des affaires familiales, puisque nous sommes homologués d'une part par la CAF du Tarn et la MSA Tarn, alors Tarn Nord Midi-Pyrénées, si je ne me trompe pas, ainsi que par la Cour d'appel d'Albi. Et ensuite, nous avons des petits cofinanceurs.
Vous avez une idée du nombre de parents qui sont accompagnés chaque année ?
Ah oui, j'aurais dû prendre le rapport d'activité.
Mais en gros, est-ce que c'est une cinquantaine ?
Ah non, plus.
C'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus. Ne serait-ce que sur les séances d'information à la médiation familiale, on doit être autour de 250 minimum en collectif. Ensuite, on doit être autour d'une cinquantaine en individuel, voire plus, même 80. On touche autour de 400 personnes minimum chaque année. sur cette activité. Et sur l'ensemble des activités de l'école des parents, on a à peu près entre 850 et ça c'était année Covid, et 1000 personnes, que ce soit des enfants, des professionnels, des parents, des grands-parents, des beaux-parents.
Il y a donc aussi l'aspect éducateur, donc plutôt en lien avec les professionnels. À qui, dans ce cas-là, vous vous adressez ou vous proposez des choses ?
Alors, en principe, nous sommes assez connus maintenant pour que les professionnels viennent nous contacter directement. Ce que nous faisons, nous proposons des formations en intra et clés en main, comme nous aimons dire, puisque nous avons la même démarche, que ce soit pour le parent, le professionnel et le bénévole, c'est-à-dire que nous accueillons d'abord la demande. Et en fonction de la demande, on va construire ensemble une ou plusieurs portes d'entrée qui vont permettre de solutionner la problématique. Donc, jusqu'à présent, j'ai construit toutes les formations avec les demandeurs de formation, que ce soit des élus, comme pour la politique de la ville de l'Albigeois, ou la mairie de Rivière, ou que ce soit pour l'ANRAS avec le service éducatif de jour, ou la maison des femmes, voilà, ou au fil de soie, voilà. Donc il y a vraiment, on a vraiment la même démarche, c'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, on se présente, on dit qui on est, puis on travaille ensemble à construire ensemble un étayage qui va permettre de mieux appréhender les situations.
Il me semble avoir vu sur votre site internet que vous aviez un volet accompagnement spécial pour les personnes en exil.
Alors, pas forcément en exil, mais migrants et exilés, mais enfin migrants étant aussi... voilà, à repréciser. Oui, l'école des parents, depuis... alors, d'abord, historiquement, le réseau Sésame, c'est-à-dire le collectif pour l'écoute, le soutien aux migrants et exilés, a été mis en place par des professionnels du champ de la famille, du champ de la prise en charge aussi par le CADA des demandeurs d'asile, mais avec tous les travailleurs sociaux autour. Et a donc débuté sur le territoire en 1996. Or, en 96, nous n'étions pas encore là. Nous sommes arrivés sur le territoire le 18 mai 2000. Et dès 2001, en fait, dès qu'on a eu connaissance de ce réseau de professionnels du champ de l'éducatif, du social, du médico-social, de la santé et du droit se réunissaient, eh bien... Nous avons été invités. Et donc, en 2007... Il a fallu trouver un porteur pour l'animation de ce collectif. Et donc, les participants se sont tournés vers le PE. Le conseil d'administration a décidé, effectivement, plutôt que de déliter que ce réseau se délite, de porter ce réseau. Donc, depuis 2007, nous portons ce réseau sur le Tarn Nord d'Albi.
Dans votre témoignage, on entend de multiples acteurs et actrices avec lesquels vous relationnez, vous êtes en lien. C'est important, ça. Ça vous apporte beaucoup.
Alors, au-delà des techniciennes, des mises en réseau dans un accompagnement efficient des publics, qu'ils soient des enfants, des parents, des grands-parents, ou même des professionnels, parce que souvent, ce n'est pas nous qui allons faire, mais nous allons orienter vers un autre acteur du territoire, c'est toujours important de travailler en réseau parce qu'on perd moins de temps, on est plus efficient et ça peut permettre de donner aux personnes vraiment un accompagnement multiple puisque chacun on a notre champ de compétences. Nous, c'est, vous l'avez dit, l'éducation, c'est la co-citoyenneté, c'est la co-éducation, c'est le vivre ensemble, que ce soit en famille ou en dehors de la famille. Donc, on a aussi un autre partenaire que je n'ai pas encore cité, qui est l'éducation nationale. Voilà, puisque nous travaillons avec les écoles également, dans le cadre d'activités de prévention, mais les mairies, les services de la ville d'Albi. Oui, je pense que sur le rapport d'activité, il y a une page entière de partenaires, qu'ils soient financeurs ou techniciens. Ça va de l'État à la collectivité territoriale, à l'association, à des groupes de bénévoles, à des groupes d'habitants, à des groupes de parents. Donc c'est assez large, oui.
Très bien, merci. Maintenant, on va donner la parole à Olivier Tournier. Alors vous, quel est votre rôle dans l'association de l'école des parents et des éducateurs ?
Alors, je suis le président.
Et alors là, vous êtes venu avec un petit livre tout à fait charmant. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin ?
Alors, ce livre est un outil pour le relais enfants-parents incarcérés qui va permettre d'expliquer aux enfants comment va se passer l'accompagnement.
L'accompagnement, c'est-à-dire quand l'enfant va aller visiter son parent en prison ?
Tout à fait.
Donc voilà, vous dites le répit, le relais enfants-parents incarcérés. Donc en fait, il y a beaucoup d'enfants dont les parents sont incarcérés qui viennent vous voir pour avoir du soutien.
Il y en a quelques-uns. En général, on a à peu près 13 demandes par an.
Ce sont des demandes qui sont aussi validées par les services pénitentiaires, par exemple ?
Ah, bien sûr, tout à fait. On a tout un protocole où l'enfant, enfin c'est le père qui doit faire la demande à son CPIP. Et après, notre psychologue va visiter le père pour voir si sa demande est fondée. Et après, le père prend contact avec la maman aussi. Et il y a un temps avec l'enfant également. Et une fois que tout est réuni, les bénévoles accompagnent l'enfant dans la prison, voir le père.
Vous parlez du père, c'est systématiquement le père qui est le parent en prison ?
Tout à fait, puisque dans le Tarn, il n'y a pas de prison pour femmes.
Et donc, le fait qu'il y ait des bénévoles, ça apporte une présence d'un tiers. Vous pouvez nous parler du rôle du bénévole, de l'importance de cette présence ?
Alors, le bénévole, on est deux par accompagnement. Il y a un bénévole qui rentre dans la prison pour accompagner l'enfant. Et il y a un bénévole qui reste à la maison d'accueil de la prison pour parler avec la mère. Jusqu'à maintenant avec la mère, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc les bénévoles, eux, sont formés par notre psychologue, par le CDAD également.
C'est quoi le CDAD, pardon ?
Le Conseil départemental d'accès aux droits.
D'accord, voilà. Merci. Les bénévoles sont formés donc par vous et par le CDAD ?
Tout à fait, oui. Et donc les bénévoles viennent de l'association La Beluga, qui est la maison à côté de la prison.
Donc il y a un bénévole qui accompagne l'enfant en prison.
Oui, tout à fait.
Il est présent pendant l'entrevue avec le papa.
Oui, tout à fait. Oui. On garde une présence. Alors, on essaie qu'elle soit la plus discrète possible, bien sûr. Hein. Et pendant ce temps-là, l'autre bénévole s'entretient avec la maman et les mamans ont énormément de choses à dire.
Vous parlez de ces maisons d'accueil type Beluga. Il y a des maisons d'accueil pour les familles, pour les visiteurs et visiteuses en prison ?
Alors oui, tout à fait. Pour les familles qui viennent au Bar-Loire, il y a des petites maisons d'accueil. Alors je ne sais pas si c'est génial. Enfin, dans le Tarn, il y a chaque prison une maison d'accueil. Donc il y a Oasis et la Beluga. Et ces maisons d'accueil accueillent les familles qui vont en parloir.
Les familles viennent de loin parfois ?
Oui, tout à fait. Il y a des familles qui partent, enfin, qui viennent de très loin, qui partent la veille, qui partent. Enfin, c'est assez. Donc, quand elles arrivent, ces familles, elles sont accueillies par des bénévoles. Et donc là, elles peuvent prendre un café, discuter. Et comme ces bénévoles ont une expérience assez importante, il nous a paru logique d'avoir ces personnes-là pour faire les accompagnements.
Et alors l'idée de ce livre, comment elle est née ?
Alors l'idée de ce livre, elle est née parce que, pour plusieurs raisons, on voulait faire des cadeaux aux enfants, ou au moins un cadeau quand ils venaient nous voir, un petit cadeau de bienvenue pour les rassurer un petit peu, puis pour avoir un dialogue un peu avec eux. Et il nous a semblé aussi, il n'existait pas de vrai livre pour expliquer aux enfants comment ça se passe. Et alors, on a voulu créer un livre, un vrai, avec le plus beau possible, pour pas que ça ait l'air d'une notice. Et je crois qu'on a réussi.
Comment vous avez procédé ? Vous avez écrit vous-même le texte ou vous l'avez confié ? Qui a fait les illustrations ?
Alors, le texte a été fait par les bénévoles. Donc, il y a au moins 4 ou 5 bénévoles qui ont travaillé sur le texte. Après, l'illustration a été faite par Fanette Chavant, une illustratrice, qui s'est bien prise au jeu, qui est bien rentrée dans l'histoire. L'histoire est très, très simple. Hein. C'est un livre qu'on a voulu très simple, très... très beau aussi par les dessins, et qui va nous servir d'outil pour la psychologue, pour tous les gens qui ont besoin d'expliquer le cheminement pour aller à l'intérieur de la prison voir son papa.
Du coup, pour les enfants concernés, ils peuvent s'identifier au héros ou à l'héroïne ?
Oui, je pense. Et puis, nous, dans le... Je pense qu'on a voulu être honnête quelque part. C'est que dans le livre, on se retrouve très, très bien. Quoi. On retrouve très bien l'ambiance, ce qui se passe. Et c'est vraiment bien. Quoi.
Donc, ce livre qui s'appelle comment ?
Camille va voir papa.
Donc, vous le distribuez aux enfants accompagnés par votre équipe. Et est-ce qu'il est aussi accessible à tout un chacun ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Nous avons édité ce livre nous-mêmes. Donc, au niveau de la distribution, c'est un petit peu compliqué. Mais on le vend au public, parce qu'on le vend au public. C'est un très joli petit livre, donc on le vend au public, et actuellement on peut le trouver qu'à notre association, mais bientôt j'espère qu'il va être en ligne sur la Fédération Nationale des EPE, où là on pourra l'acheter directement.
Très bien, donc pour se le procurer, pour l'instant on contacte votre association,
tout à fait,
l'École des parents et des éducateurs. On arrive en fin d'émission. Est-ce que vous auriez envie de parler d'un point sur lequel je n'ai pas vraiment pensé à vous questionner, que ce soit vous, Olivier Tournier, ou vous, Carole Sanchez-Petit ?
Peut-être revenir sur l'historique de l'EPE qui s'est construite au travers de l'envie de certains professionnels et parents d'avoir des espaces de parole entre parents afin de ne pas rester seul avec une problématique, ne pas rester seul dans une difficulté. Ça fait 21 ans maintenant, je crois qu'on a pas mal réussi. La prochaine fois que je reviendrai, je comptabiliserai le nombre de personnes que nous avons reçues depuis 20 ans. Non, c'est une boutade. Vraiment pour dire que les bénévoles qui sont à la création de cette association ont vraiment donné l'impulsion. Nous étions, puisque j'en faisais partie dès le départ, une dizaine. Là, nous sommes avec... 9 bénévoles du répit et 6 sur le café des parents, mais les gens aussi qui sont là depuis longtemps et qui ont aussi peut-être d'autres centres d'intérêt plus familiaux auraient envie de pouvoir partir de l'EPE, mais ils se sentent peut-être redevable ou je ne sais trop, mais en tout cas, ils n'osent pas partir de l'EPE. Et nous sommes vraiment en recherche, effectivement, c'est pas Monsieur Tournier qui me dira le contraire, mais de bénévoles, mais ça peut être des tâches très ponctuelles, d'aller créer un visuel pour une manifestation, par exemple. On a une jeune femme, Jessica, qui a fait beaucoup d'affichettes pour nous, de flyers. Ça peut être donner du temps, comme Michel, la nouvelle bénévole qui vient d'arriver, pour essayer de débroussailler la trésorerie, enfin les pièces comptables avant de donner à la comptable. Ça peut être... Voilà, on peut venir à l'EPE Si on partage les idées de l'EPE, que la coéducation, c'est vraiment central dans notre société, que les parents tout seuls, ils ne peuvent pas tout faire, qu'être parent au quotidien, ça peut être difficile, ça peut être même très difficile pour certains. S'il y avait un message à faire passer, c'est que effectivement, nous ne sommes pas une association caritative, mais par contre, nous pouvons soutenir les familles qui ont des passages difficiles.
Merci beaucoup d'être venu de parler tout ça, de parler de tous ces projets que vous menez à bien sur notre antenne de Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. On vous souhaite une belle continuation.
Merci Claire.
Quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute.
Un grand merci à Claire Cachouche aussi pour ce magazine de la rédaction que vous pouvez bien sûr retrouver sur le www.airdotan.fr. Dans ce magazine, il a été question de livres, l'occasion pour moi de vous informer de notre série de reportages à venir à la rencontre d'autrices et d'auteurs du Tarn. Toute cette série devrait commencer dans le journal d'information des vendredis, avant de retrouver lundi et mardi prochain des magazines de la rédaction consacrés à des autrices et des auteurs du département. Avant de se quitter, Luce, peux-tu nous donner le programme des émissions qu'on peut retrouver tout au long de cette journée du 7 décembre ?
Vous retrouverez à 13h un timbre se raconte, suivi de paroles de résidents à 16h et de Magic Sud à 17h. À 17h30, si vous nous écoutez toujours, vous aurez la rediffusion d'Autant le dire jusqu'à 19h. Et vous retrouverez à Fleur de Pop à 20h30. Si vous avez manqué ou si vous voulez réécouter les émissions, rendez-vous sur notre site www.airdetemps.fr.
Merci beaucoup, Luce. Merci beaucoup à Chérif également qui a réalisé cette émission. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont rendu cette émission possible, à Claire, Clémentine et Sylvain pour la météo. Le groupe aujourd'hui, c'était Feur avec l'album When You Walk Away. La rediffusion, comme vous l'a dit Luce, c'est ce mardi à 17h30. Pour autant le dire, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et une très bonne écoute sur les ondes des radios Air d'Otan Gaillac et Air d'Otan.